comme Dieu le demande, comme Jésus l'était. Voilà. J'ai abordé le sujet de la prière à plusieurs reprises. La prière est un don. J'ai dû remettre tout ça en musique. Pourquoi ? Parce que je voudrais bien que ça soit traduit en allemand et même d'autres langues et que je puisse aller m'adresser à une église en allemand, germanophone. Un des responsables m'avait demandé de le faire et j'ai dit je ne suis pas prêt. Il paraît qu'il y a des logiciels sur ordinateur pour traduire du français en allemand. Si j'avais ça, je serais bien content. Si j'avais le texte en allemand, évidemment, l'allemand je sais le lire, donc je pourrais le lire facilement et dire ce que je dois dire à cette église, pour laquelle je me soucie beaucoup. La prière est un don, mais elle est aussi un ordre. C'est quelque chose chez le chrétien qui n'est pas facultatif, c'est une partie constituante de sa vie. Et puis la prière est centrée sur Jésus-Christ. Vous savez que dans le psaume 27, voici ce que David dit, « Mon cœur dit de ta part », donc c'est Dieu qui a diffusé ça, qui a fait un signe à David, un signe spirituel, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face ». Mais quand on pense bien, la face de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8, c'est sur la face de Jésus-Christ que je vois la gloire de Dieu. Et la lumière, la gloire de l'Évangile resplendit sur la face de Jésus-Christ. Et il me fait connaître Dieu. Donc Paul a bien expliqué que l'accomplissement de ce message spirituel donné dans l'Ancien Testament était accompli. Il suffisait de se tourner vers Jésus et de l'aimer et de chercher à le connaître pour être en contact avec le Père. Donc la prière est centrée sur Jésus-Christ. Et rien ne peut supplanter en moi sa voix. Hein? Les brebis connaissent ma voix. Hein? Les brebis connaissent ma voix. Les mercenaires ne la connaissent pas. Donc, les vrais brebis, les chrétiens, eh bien, ils savent que rien ne peut supplanter la voix du Seigneur dans leur cœur. C'est fort important. Dans la transfiguration, Jésus était désigné par le Père devant Moïse et Élie. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutait sa voix. Écoutez-le au baptême aussi dans le Jourdain. Donc tout le thème de la prière est toujours d'aller vers le Père en étant centré sur Jésus-Christ. Parce que dans Jean chapitre 14, Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. La médiation, l'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Donc l'Écriture le définit comme central. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit « Toutes les Écritures rendent témoignage de moi. » Voilà. Et donc, ça je l'ai expliqué déjà, aussi un dimanche. Et puis, j'ai expliqué aussi que la prière est la méthode de Jésus pour nous sensibiliser et nous éduquer. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples et c'est ce qu'il tient à faire encore aujourd'hui. Donc j'ai dit dimanche passé que la prière, au contact de Jésus, sert à purifier notre partie affective, la nature de nos désirs. Nous avons tellement de désirs contraires, perturbés, perturbants, et un monde affectif en nous qui est parfois chaotique, qu'il faut qu'il soit mis en ordre et purifié. C'est Jésus qui le fait. Alors Jésus... nous a donné un moyen qui est nécessaire, qui est utile, c'est de se confier à lui, de déposer tous nos fardeaux à lui, car son joug est doux et léger. Son joug aura sa parole est douce et légère. Ah, par rapport aux 622 règles que les pharisiens donnaient, par rapport à tous les règlements et la culpabilité qu'ils développaient, et la crainte qu'ils développaient, Jésus développait la confiance en Dieu, l'amour de Dieu et la paix en Dieu. Donc celui qui a des fardeaux, qu'il se confie à moi et qu'il verra, mes paroles sont douces et légères, mais mon fardeau est doux et léger, mon joug est doux et léger. Ça c'est réellement comme ça qu'on est éduqué progressivement dans la prière à avoir la paix au niveau affectif. C'est extrêmement important d'avoir une paix affective en soi. Il ne faut pas croire qu'elle se passera en regardant la télévision, qu'elle arrivera. Il ne faut pas croire qu'elle viendra en prenant des médicaments. faut pas croire qu'elle viendra en ayant des amourettes à droite et gauche, ou des aventures plus durables, mais qui finissent quand même mal. Non, la paix, réellement, Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, et que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. C'est clair, Jésus a quelque chose à nous donner, de précieux, c'est sa paix. Et c'est donc l'équilibre du monde affectif en nous, c'est l'équilibre entre tous les désirs que nous avons, ils sont focalisés sur Jésus qui donne la paix. On finit par aimer plus la paix que les folies qui passent en nous, et dans nos désirs et dans nos esprits, et qui parfois nous jettent bien loin dans l'affliction. Faute de prière, on va voir dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous allons voir, on va rater énormément de choses qui transforment notre caractère. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc à la vie divine, hein, le salut, et la piété, ben c'est cette relation de foi, pistis, la foi, et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celui qui nous a appelés, bien sûr, c'est Dieu, il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il a tous les moyens, Dieu, de nous appeler. Il peut appeler n'importe qui, un tordu, un assassin, un violeur, il peut tout d'un coup se faire basculer la vie vers la sainteté. Et le plus difficile à amener à sa sainteté et à se lâcher, c'est ce qu'on appelle les braves gens, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à changer et qu'ils sont très bien à leurs propres yeux, sages à leurs propres yeux, parfois même saints à leurs propres yeux. Ça, c'est le piège terrible. Donc, au moyen de la connaissance, donc de la relation, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a appelés, hein, et à une relation où sa gloire et sa vertu vont nous assurer des plus grandes et des plus précieuses promesses. La relation à Dieu nous donne de grandes, plus grandes et plus précieuses promesses que n'importe quoi que Satan peut nous proposer, que le monde peut nous proposer. En vue de quoi ? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, notre vocation est d'être participants de la vie divine. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, quand Jésus, c'est une église, Jésus est dehors de l'église, derrière la porte. Il n'est pas dans l'église, vous vous rendez compte. Il n'est plus dans l'église. Parce qu'ils sont pleins de présomption. Un but d'eux-mêmes, ils se croient riches, ils croient voir clair, etc. Donc, ils sont imbus d'eux-mêmes, la présomption est tombée, l'esprit de présomption du monde est venu dans l'église, il est derrière la porte, et il toque, et si vous entendez ma voix, que vous m'ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, et je mangerai avec vous à table, je mangerai avec vous, et vous mangerez avec moi. Donc, la participation à la vie divine est le but ultime de Jésus. C'est un échange entre le terrestre et le céleste, c'est donner à nous ce qu'il a de plus précieux, de plus grand, c'est la vie divine et l'amour divin. Alors regardez comment ça se passe, cette nature divine, cette divine puissance travaille en nous pour faire quoi? Ben, pour développer en nous la fuite de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À la fin du verset 4, pour que nous fuyions la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et vous savez bien que c'est tout un art dans le monde d'attiser les gens dans la convoitise. Le marketing, etc., les publicités, mais même sans ça, ça n'existait pas à l'époque où ça a été écrit. Ça fait partie des stratagèmes du monde, des hommes, ils développent toutes sortes d'arts pour développer les convoitises chez les autres, et leur faire dépenser de l'argent pour les diriger, pour les accaparer. Alors, même s'il n'y a personne qui nous propose des convoitises, nous en avons en nous, puisque nous sommes pécheurs à cause du péché d'Adam et Ève que nous avons reçu. Alors, il faut fuir la corruption, c'est-à-dire la mort, cette séparation qui nous met entre, qui se met entre Dieu et nous à cause de l'exercice du péché et de ses convoitises. À cause de cela, il appelle les chrétiens à faire tous leurs efforts, verset 5, pour joindre à votre foi, donc la foi en Jésus, on a demandé pardon pour ses péchés, on a accepté Jésus comme sauveur, accepter la vertu. La vertu de quoi? Que je n'ai pas? Oui, que je n'ai pas, donc celle de Jésus. À la vertu, la science, donc la science de Dieu, de découvrir qui est Dieu, de le connaître. Donc, Dieu peut me se faire connaître à moi. Si je me comporte comme un enfant à son égard, Jésus me révèle qui est le Père. C'est clairement expliqué dans Matthieu chapitre 11. Alors, dans la foi, ça lit, si nous acceptons la vertu de Jésus, nous acceptons la science que Dieu veut bien nous donner, si nous voulons bien accepter la tempérance qu'il y a en Jésus, en Dieu, hein, nous commençons à entrer dans les précieuses promesses de Dieu. Nous commençons à entrer dans toutes les plus grandes promesses. Tout, ce sont tous des éléments de sainteté qui sont propres à Dieu et qui sont finalement notre destination, la perfection de Christ. Alors, à la tempérance, donc la tempérance, c'est savoir se calmer, ne pas s'allumer pour n'importe quel désir, n'importe quelle envie, n'importe quelle folie qui passe, parce que la tempérance est quelque chose de très grand, de très profitable pour diriger une famille, pour éduquer les enfants, pour leur apprendre, surtout. Il n'y a rien de plus difficile que d'apprendre la tempérance à des enfants. Le monde adulte en manque déjà tellement qu'on ne voit pas comment les enfants l'auraient, souvent. Alors, la patience, c'est savoir attendre ce que Dieu a prévu et qu'il ne donnera pas tout de suite. Il donnera peut-être autre chose à la place. Il va nous faire attendre. Vous savez, en amour entre un homme et une femme, quand on a tout de suite, on finit par se plaquer tôt ou tard. Quand on ne sait jamais attendre. Parce que tout devient consommation, consumérisme, possession et donc folie. Mais la patience, c'est tout le contraire. On apprend à ne plus être, à ne pas être fou. On ne tombe pas dans l'obsession et l'esprit de domination, d'accaparement. La patience nous apprend à mater l'animal qui est en nous, à le faire mourir, la bête qui est en nous. Et la patience, la piété. Donc la piété, c'est la prière. C'est la relation de prière, la relation de foi. La prière seule à seule avec Dieu, la prière avec quelques chrétiens, la prière en communauté, en église, la prière en lisant la Bible, la prière en chantant des cantiques qu'il y a dans des livres, etc. En écoutant de la musique sur un CD ou sur Internet, la musique bien faite. Et la piété, il y a encore un autre trésor, c'est l'amour fraternel. L'amour entre les frères et les sœurs, ce qu'a dit Vincent, est un des signes de la progression dans l'héritage que Dieu nous donne dans notre vie. C'est, on voit déjà qu'il y a chez certains individus plus d'amour que chez d'autres, et cet amour fraternel dépasse les conflits. On ne s'arrête pas à une broutille, on ne se vexe pas pour rien, on pardonne, etc. On n'arrête pas à ça, parce que le Seigneur en nous met de l'amour qui est plus fort que les rancunes, les colères, les déceptions, les désillusions. L'amour fraternel, c'est quelque chose qui va au-delà de la recherche de soi. C'est l'amour comme Jésus l'a dans 1 Corinthiens 13. Il est patient, il n'envie pas, il ne querelle pas, il ne domine pas. Il supporte tout, il comprend tout, hein, 1 Corinthiens 13. Et donc, vous avez après le mot charité, à l'amour fraternel, à charité. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose? Mais non, ce n'est pas la même chose. Parce que le mot caritas, ça vient du latin, charité, caritas. Mais caritas vient d'un autre domaine, dans le monde grec, d'un amour divin qui est en Dieu et qui n'est pas en nous. Dans Jean chapitre 17, dans les deux derniers versets, Jésus prie le Père que l'amour que le Père a eu pour lui soit en nous et que nous soyons un comme lui est un avec le Père. Donc c'est un amour complètement qui nous dépasse. C'est un amour, c'est l'amour, c'est la nature de Dieu qui nous transforme même pour pouvoir aimer comme le Père aime Jésus. Vous imaginez? Donc, vous avez vu, il y a une progression. Et Paul, Pierre, ici, donne une progression dans tous les héritages. Tout se tient, comme les pierres dans la maison, ici. Si ces choses sont en vue, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles. Donc, le chrétien qui a ça est actif et engagé et en transformation, et il porte des fruits pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il apprend et il progresse dans la connaissance de Jésus. Il progresse dans le face-à-face avec Jésus, il progresse dans une relation où il sait vraiment qui est Jésus. Parce que Jésus est en lui qui le transforme. Alors, c'est pour ça que Paul dit, nous marchons de pas à pas, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit Saint, dans 2 Corinthiens. Pourquoi? Parce que nous voyons comme à travers un miroir. Quand le miroir était là, Paul dit, je dois pouvoir voir ce que le Christ fait en moi. Ça correspond tout à fait à ça. Et je vois les choses invisibles qui se passent en moi quand je me regarde sur le miroir. Parce que je vois ce que le Christ a changé en moi. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Nous allons de gloire en gloire, de pas en pas, comme par l'Esprit, le Seigneur. Donc c'est clair que l'Esprit Saint est Dieu et que l'Esprit Saint, hein, c'est le texte par excellence qui montre que l'Esprit Saint est Dieu et qu'il y a la Trinité, c'est une œuvre de Dieu en nous où on finit par voir que Dieu nous a pris et nous habite et nous contrôle, oui, nous conduit en tout cas. Il nous contrôle d'une manière tout à fait enrichissante. Et regardez au verset 9, il parle à des nouvelles communautés chrétiennes qui peut-être existent depuis 20 ans, mais pas plus. Et il dit, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin. Donc il y a donc dans la communauté la possibilité de ne pas avoir tous ces progrès spirituels et d'être là dans la communauté. Et il est possible d'être oisif et stérile, il est possible de devenir aveugle, de ne plus rien comprendre à l'évangile tout en étant dans le troupeau, dans le peuple de Dieu. Aveugle. Et il ne voit pas de loin, donc il n'a plus aucune perspective pour le futur, il ne sait plus ce que Dieu lui propose, ce qu'il veut de lui, pourquoi il est venu, pourquoi il a envoyé Jésus. Et il a mis en oubli la purification des péchés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de ses anciens péchés? Le pilotage automatique, c'est-à-dire je suis content d'être chrétien et je ne fais plus aucun effort. Je me laisse aller. Ça rejoint le thème, bien sûr, qui est au verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Donc il faut, comme Jésus a dit, être violent pour s'emparer du royaume des cieux. Violent sur soi-même. Sur soi-même, il faut se flageller. Hein, il y avait un roi de France, Louis XI, qui se flagellait, se faisait flageller. Il y a Saint Ignace de Loyola, il se flagellait, enfin... Saint François d'Assise, on mettait des cises de crainte. C'est pas ça. En fait, tout ça, c'est des névroses, des perversions psychosomatiques de la foi. Mais c'est pas ça. C'est simplement qu'on fait mourir le péché. Vous savez, Christ est venu dans votre vie et il a crucifié votre péché. Et vous êtes d'accord, même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. J'ai été crucifié en Christ. Galates chapitre 2, verset 22. Donc il y a franchement une acceptation d'un chemin où le Christ a toute sa place pour devenir semblable à lui. C'est ça l'effort. Et ce n'est pas de se martyriser pour devenir saint, je ne sais pas comment. Avant. J'ai lu tout un livre quand j'étais jeune de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est admirable. C'est admirable si on se laisse prendre au piège. C'est très séducteur. Parce qu'elle était sincère. Mais elle a été éduquée à ériger la souffrance comme moyen de salut. Bon, c'est pas ça. Le moyen de salut, c'est Jésus à la croix. C'est Jésus à la croix. C'est Jésus qui m'a sauvé à la croix. J'ai pas besoin de souffrir. Je peux être très bien pourtant. Je ne dois pas considérer la souffrance comme le chemin de mon salut. Si Dieu permet que je souffre, alors oui, je l'accepte et je rends grâce à Dieu. Il y a, bien sûr, dans les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux, à certains moments, des textes comme ça. Mais généralement, c'est vraiment un grand déséquilibre. Et ce qui est dommage, c'est que on ne remet pas parfois toujours ça en question. On prend ça du pain béni, c'est très séducteur. C'est comme ça que c'est en Espagne où il y a un lieu marial, Fatima, c'est ça? Eh bien, on marche pendant plusieurs kilomètres à genoux et on saigne, on se démonte les genoux.
Au Portugal.
Au Portugal, oui. J'avais dit où?
Espagne.
Ah oui. Eh bien, pratiquement, ce sont tous des exemples. Quand vous voyez à Pâques, quand, en Philippines, certains coins, il y a des gens qui se font crucifier à Pâques. Vous avez ça, bien sûr, chez les musulmans, en Iran et en Irak. Les chiites, le jour de la mort de leur fondateur, du neveu de Mahomet, eh bien, il y en a qui se taillent, ils sont pleins de sang, et ils dansent, c'est une folie, ça n'a rien à voir. On trouve ça dans d'autres religions.
Les prêtres de Baal.
Oui, les prêtres de Baal, même les principes du derviche tourneur qui tournent jusque... Hein? Eh bien, c'est quoi? C'est de perdre le contrôle de soi, c'est d'être dans l'ivresse, mais ça peut être la livresse à douleur. Là, c'est l'ivresse, quand on dit en patois gommé ici, la donis, infini, il ne sait plus où il en est. Il pète les plombs. Alors, il appelle ça un contact avec Dieu. Mais chez les Cananéens, sous les arbres, on faisait l'amour avec les prêtresses, jusqu'à en péter les plombs, on croyait qu'on était en contact avec Dieu. Donc, toutes ces folies n'ont rien à voir, que ce soit la souffrance, ou l'érotisme sacré, ou toutes sortes de choses, n'a rien à voir. Simplement qu'il faut se tourner vers Jésus dans un message clair, bien compris. Alors, je vais dire que être dans celui qui a accepté Jésus, il a accepté un contrat d'assainissement perpétuel. C'est comme la maison qui a une fosse septique et des égouts et qui tous les deux ans fait venir le camion, hein, le gros camion citerne et qui met les tuyaux. Hein, bon, et il renvoie de l'eau. Eh bien, ce contrat d'assainissement et de débouchage de la fosse septique de notre âme, la fosse septique, oui, moi j'en suis conscient pour moi. Naturellement, je ne peux pas dire comment elle est la vôtre, mais bon, moi je le connais, la mienne. Il faut laisser accomplir l'assainissement continuellement, c'est ça la purification de mes anciens péchés qui reviennent toujours à la charge. Hein. C'est ça que Pierre a dit. Il ne faut pas mettre en oubli la purification de mes anciens péchés. Ben oui. Chasser la nature, elle revient vite au galop, hein, dit le proverbe. Et ben voilà. Alors, parce qu'on a été présomptueux, ben on n'a pas vu qu'on retombait encore plus bas qu'avant. Alors, Pierre dit dans cette épître, un peu plus loin, le cochon est retourné dans sa boue, le chien est retourné dans son vomi. Et il dit ça pour des chrétiens. Donc, méfions-nous, c'est vite fait pour nous, vous savez. Alors, on a un contrat perpétuel d'assainissement, de débouchage, c'est-à-dire de purification par le Saint-Esprit, par le Dieu. Et il faut pouvoir être assaini et purifié par Dieu, parce qu'il est vivant. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 à 5, il a dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, sous peine que ton péché te séduise. Le thème de ces passages dans l'Hébreu, c'est la même chose. Sinon, tu ne rentreras pas dans mon repos. Ben oui, le repos. Toutes les qualités spirituelles que nous avons vues, foi, vertu, science, tempérance, patience, tempérance, amour fraternel et charité, il n'y a pas moyen de les avoir. C'est ça le repos. Évidemment, c'est le repos, c'est être en Dieu, le repos. Être avec les qualités, les grâces de Dieu. Et donc, l'Épître aux Hébreux dit la même chose que cet Épître de Pierre. Parce que ça posait le même problème dans toutes les communautés, comme encore aujourd'hui. Alors, la régénération est extrêmement importante. Elle n'est pas arrivée une seule fois. Quand j'ai cru, le Saint-Esprit vient dans ma vie, et puis c'est tout feu, tout flamme, et puis après, ça y est, c'est la longue routine, l'affadissement, la banalisation. Non, c'est pas ça. C'est une action continuelle, et cette action continuelle s'appelle la sanctification. Donc, pour la régénération, 1er épître de Pierre, chapitre 1, 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, verset 17. « Je vais commencer au verset 15. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Pas parce que je me l'impose que je vais y arriver par ma volonté, non. Parce que les grâces de Dieu vont me transformer. Soyez saints dans toute votre conduite, donc pas simplement en idée, hein. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est dans Lévitique, hein, dans le livre des Nombres. C'est déjà vieux. C'est toujours l'appel de Dieu sur son peuple. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc on voit bien qu'il y a un chemin, un pèlerinage, à partir de l'état de pécheur que je suis, jusqu'au ciel, cet état de réception totale, de gloire en Dieu. Et donc, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a la régénération et puis il y a la sanctification. Ok ? Et il faut absolument qu'il y ait la régénération, donc le don du Saint-Esprit, une nouvelle naissance, pour pouvoir vivre la sanctification. La sanctification par soi-même, ça c'est une religion des œuvres. Je vais faire autant d'heures à genoux, de prières, je vais faire autant de pèlerinages, je ferai chemin de Saint-Jacques de Compostelle, je mettrai autant dans l'offrande, je vais faire un rosaire, un pater, des 25 ave, etc. Tout ça, c'est de la sanctification sans Saint-Esprit. Ça, c'est le point de départ est raté, la régénération est ratée, et on veut faire le reste du chemin comme si la régénération n'avait pas été... Elle n'a pas été prêchée, n'a pas été enseignée, n'a pas été... Les personnes n'ont pas compris. Et on ne peut pas leur en vouloir, d'ailleurs. Dans la plupart des cas, en tout cas. Alors, notez bien que parfois, moi j'ai beaucoup de bouquins anciens, des bouquins catholiques, de théologie, de spiritualité, il y a des bouquins qui parlent vraiment comme les évangéliques. Hein. C'est biblique. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas assez diffusé dans les paroisses. On ne l'a pas mis au niveau de tous. C'est resté des exceptions. C'est ça le problème. Alors, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc il voit ce que nous faisons, est-ce que de bien et de mal, comment nous sommes régénérés ou pas, comment nous sommes sanctifiés ou pas, eh bien tout cela, il pose des jugements sur nos comportements, sur nos choix, et il agit. Pour que j'ai honte à certains moments, pour que je sois encouragé à d'autres. C'est ça le juge. Et surtout, ce qui est mis, c'est que ce n'est pas par des choses, verset 18, des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc ce n'est pas parce que je donnerai des sous pour quelqu'un qui est mort et faire des messes qu'il va être sauvé. C'est pas parce que je vais donner. Moi, j'étais prêtre. C'était un gros drame pour moi, dès que j'étais prêtre. On ne comprend pas ça tant qu'on est au séminaire. Mais dès qu'on est dans le feu du ministère, on rencontre des gens, par exemple Annette, elle a fait des galipettes à droite et gauche, son mari n'en sait rien, elle a fait des conneries, hein, et quel qu'il sait. Mais ce qu'il y a, elle est prise d'angoisse, parce qu'elle s'est dit, oulala, le boulier, toutes les boules passent, et il m'en reste encore deux, bientôt je vais mourir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'appelle mon père. Hein, mon père, ou monsieur le curé, ou monsieur l'abbé, ou je ne sais pas, le directeur spirituel, elle l'appelle, et qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement tracassée, j'essaye de la consoler et tout, mais elle ne demande qu'une chose, c'est que je l'absolve au nom de la Sainte Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de tous ses péchés. Que moi je pardonne les péchés. Et elle est soulagée, tellement soulagée qu'elle va me donner un champ, ou sa voiture, ou 100 000 euros, ou 25 000 euros. Et c'est comme ça que vous avez des belles abbayes bien riches, vous avez des évêchés bien riches. Méfiez-vous, on trouve des églises bien riches chez les protestants aussi, c'est à croire qu'on a recommencé le même cirque autre part. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, j'étais avec des copains, prêtres ouvriers, à l'abbaye de Rochefort, la bonne bière, hein. Eh bien, ça va remarquer ça. Hein, parce qu'on parlait avec certains moines, il y en avait qui étaient plus copains avec nous et d'autres pas. Hein, enfin, prêtres ouvriers, c'était des révolutionnaires. Alors pratiquement, ils nous disaient, certains, on vient encore d'hériter ça. Hein, d'une dame qui est morte, et si et ça, autant de millions. Hein. Et puis regarde là sur le parking, regarde, il y a 5-6 voitures, ils nous ont donné leur voiture. On sait quoi en faire. Tiens. Et bien, à Orval, c'était la même chose. Frère Philippe m'a dit, on a fait vœu de pauvreté, c'est nous les plus riches de la région. Si j'étais jeune, je ne rentre plus ici. J'ai trahi ma parole. Donc, vous voyez que, d'abord, c'est pour ça que Jésus a dit, ne faites pas de serment. Ben oui, vous les trahirez. Avec le péché, vous les trahirez. Comptez seulement sur le Seigneur et sur sa parole. Là, il vous aidera peut-être à rester sur le chemin. Mais si vous croyez que vous-même vous y arriverez, Jésus nous a dit, ne prêtez pas de serment. Alors, c'est clair, la régénération est le point de départ. Et la sanctification ne se fait pas par l'or, l'argent qu'on reçoit. Vous voyez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Je crois que ça existe beaucoup. Sur le temps que j'étais prêtre, j'ai refusé 75 000 euros. J'ai dû dire non à plusieurs personnes. J'ai dû dire non, je ne ferai pas la prière d'absolution avec vous. J'étais en porte-à-faux, mais en porte-à-faux. Je savais bien que le Jésus que je connaissais dans l'Évangile et que je priais ne pouvait pas marcher dans cette combine-là. Et j'ai refusé. Naturellement, ça s'est appris. On l'a appris. Tous les collègues, l'argent pour les mariages et les enterrements, j'ai tout refusé. Non, ne donnez pas un euro, un franc. Ils en ont déjà assez. Ça s'est appris. Quand j'ai été pour parler de certains problèmes avec les grands chefs, on appelle l'évêque, ils savaient déjà ce que j'avais fait et j'avais dit autre part. Ils le savaient. Et la deuxième fois, on m'a dit, vous pouvez choisir Luther. Ticket de sortie. Pourquoi? Parce que Luther a dit, et ça vient de la Bible, de Romains 1,16, le juste vit par la foi. Seulement la foi. Pas de l'or, de l'argent pour être sauvé. Alors il n'y a que les riches qui pourraient être sauvés. Il n'y a que ceux qui savent faire des combines qui pourraient être sauvés. Non! Celui qui n'a rien du tout peut être sauvé au même titre que Jésus, que les autres par le sang de Jésus à la croix. Alors regardez bien en verset 19. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà comment vous êtes sauvés. Voilà comment vous avez été rachetés. Hein, l'expression « vous avez été racheté » est dans le verset 18. « Par le sang précieux, sans défaut et sans tache, du Christ. » De Christ prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, eschaton, c'est-à-dire le temps de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'eschaton, la fin des temps. « À cause de vous. » Donc Jésus est mort à cause de nous, pour nous. Et il n'y a pas besoin de la religion pour être sauvé. Il y a juste le sacrifice et la résurrection de Jésus qui nous sont nécessaires. Et bien sûr, la foi dans le sacrifice de Jésus. Quelle révolution! Quelle révolution! Vous savez que Jean 23 l'avait compris? Et qu'il avait fait partir comme un missile son concile Vatican I dans ce sens-là? Mais il y en avait des autres qui n'étaient déjà pas d'accord. Et ils ont eu gain de cause. On a raté la plus grande réforme que l'Église catholique pouvait connaître. La deuxième fois. La première fois avec Luther, la deuxième fois avec Jean 23. Il faut faire attention. Jésus a proposé la régénération par son sacrifice, par son sang. Il me donne le Saint-Esprit. Ensuite, il conduit ma vie dans la sainteté, il transforme ma personnalité et mon caractère par sa présence en moi, c'est la sanctification. Hébreux 13, un peu avant la première épître de Pierre, Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Nous croyons, hein, il dit, voulant toute chose nous bien conduire. Donc, il fait maximum d'efforts. C'est Apollos, hein, ici. Hébreux, chapitre 13, verset 18. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Vous rendez compte? De prier avec instance pour cet homme-là, ce serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour que sa bonne conscience soit exactement une bonne conscience. Qu'elle soit purifiée par le Christ. Que ce ne soit pas une conscience subjectivement imbue d'elle-même, présomptueuse. Et regardez bien, hein, que je, afin que je vous sois rendu au plus tôt, parce qu'il était prisonnier, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça, c'est la sanctification. Et c'est la sanctification par qui ? Par le grand pasteur des brebis ? Par le sang d'une alliance éternelle. Donc, il ne s'agit pas de donner du fric pour être sauvé, et de faire des messes, ou de scier ça, de donner une maison, un terrain, etc. Si on peut le faire, si l'Esprit-Saint nous dit, il faut le faire, tu dois aider cette œuvre-là. Tu dois la faire parce que c'est mon œuvre. C'est là que je veux que ton bien aille. C'est là que je veux que tu partages ce que tu as. Là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas pour être sauvé, c'est pour obéir. Tout en étant sauvé. Pour plaire à Dieu. Donc, vous rendre capable de toute bonne œuvre. Il est clair que dans la prière, on s'avoue donc incapable d'être bon. Seigneur, dans la prière, on peut dire ceci, j'ai accepté d'être saint, mais j'y arriverai jamais. Mais toi tu l'es, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Prends-moi en main, prends ma vie en main, transforme-moi. Donc le chrétien a donné sa vie à Jésus pour toujours, sans pouvoir faire lui-même son chemin. Sans pouvoir faire lui-même à quoi il s'est engagé. Il ne s'est jamais, il ne s'est jamais appris nulle part. Un apprenti boucher travaille 3-4 ans chez un boucher, il apprend à travailler. D'abord, il va balayer, il va nettoyer. Et puis après, il va commencer à faire la petite saucisse, et puis après, il va couper une entrecôte. Ça va durer plusieurs années. Et puis, quelqu'un chez boulanger, c'est la même chose. Et bien, dans la vie en Christ, nous apprenons avec le grand pasteur des brebis, et moi, je suis la brebis. Je suis la brebis. Pourquoi ? Capable de toute bonne œuvre. Donc nous les avons vus dans le premier épître de Pierre, au chapitre 1, hein, et l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Ça, c'est l'offrande spirituelle. C'est Dieu qui fait de nous une offrande spirituelle. C'est lui qui nous place dans une situation de sacrifice spirituel. Ça, c'est extrêmement important. J'ai promis, Seigneur, de te suivre, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. J'ai promis de t'aimer, je n'ai pas le pouvoir de le faire. J'ai promis d'accomplir des choses magnifiques pour toi dans ma vie, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Mais Seigneur, avec toi je peux le faire. Grâce à tes forces, par toi-même, par toi je peux le faire. Galates chapitre 5, verset 16. La prière, c'est le dépouillement de nos prétentions. Et c'est l'abaissement de notre moi, le moi adamique, le moi du jeu, qu'on développe en psychologie. Hein? Et c'est un abaissement, comme Jésus dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Clairement. Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit.
Donc,
quand je marche sur le chemin, comme Vincent l'a expliqué, je marche sur le chemin, ben l'Esprit Saint est avec moi. Autrement, je marche tout seul et je marche pour rien. Ok ? C'est ça que ça veut dire. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on ira vraiment dans le bon chemin, le chemin de la sainteté, de la purification. Donc, le camion de débouchage et d'assainissement est à côté de moi, c'est le Saint-Esprit. Et la fosse sceptique est propre, c'est moi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Regardez ça, la chair c'est ça, c'est l'humain. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc ils ne sont pas copains, hein? Pas du tout copains. Donc on ne peut pas faire de sanctification chez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Or c'est le drame. C'est le drame, vous savez, quand vous baptisez un enfant tout petit. Et puis qu'il grandit, petite communion, grande communion, etc. À 12 ans, je me rappelle, moi j'étais sincère quand j'ai fait. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Et
Je m'attache à Jésus-Christ pour toujours.
Bon, tu l'as dit certainement sincèrement, parce que tu t'en rappelles. Ma femme aussi, moi aussi. Mais en attendant, on n'a pas été capable de le faire, hein. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord la régénération. On s'est engagé à la sanctification. On s'est engagé à la sanctification. Mais on nous a dit qu'on était chrétien parce qu'on avait été baptisé tout petit. Mais non, c'est pas ça. Pour être chrétien, il faut avoir compris qui est Jésus, ce qu'il a fait à la croix, et ce qu'il est pour moi. Est-ce que je ne suis pas sans lui aussi? À ce moment-là, je deviens chrétien parce que j'abandonne toutes mes prétentions et je me confie en Christ. C'est lui mon sauveur et mon Seigneur. À ce moment-là, après la sanctification, je peux espérer qu'elle se passe bien parce que le Saint-Esprit m'accompagne. Marcher selon l'Esprit. Et naturellement, ma nature est opposée au Saint-Esprit. Il y a une bataille. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est incapable de faire par notre propre volonté la vie chrétienne. C'est incapable d'être pur, d'être chaste, d'avoir des idées pures. C'est incapable d'être honnête sans être conduit par le Saint-Esprit. C'est incapable d'être un bon travailleur d'une entreprise sans que personne ne vous surveille. Un chrétien, il va travailler comme on voit. Comment? C'est mis clairement dans les épîtres de Paul. Vous travaillez pour Christ. Oui, fais-le. Fais-le en Christ. Comme pour ton maître, le Seigneur Jésus. Et vous savez, il est clair que dans 50 ou 100 travailleurs, employés ou ouvriers, quand quelqu'un est chrétien, le patron se dit, mais celui-là, il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Seulement, s'il ne cherche pas plus que son intérêt financier, professionnel, ben, il va le mettre peut-être caporal, hein, contre-maître, ou je ne sais pas, sous-chef, je ne sais pas, il va faire quelque chose. Allez, hop, et il va quand même encadrer les autres. Celui-là, je peux te faire confiance. Mais ce n'est pas là le problème. Si le patron se disait, mais qu'est-ce qu'il a dans sa vie, ce bonhomme-là, qui est différent? Et c'est ça la différence, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il n'y a pas besoin de règlement pour faire travailler un chrétien. Il n'y a pas besoin d'avoir peur du radar. Et tchic et tchac, on sait très bien que si on roule comme un abruti, un jour on tuera quelqu'un. Ou même soi-même. Des fois on ne comprend pas tout de suite. Malheureusement, il faut avoir eu des leçons. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ben, par exemple, le tabac, le cannabis, ben, tout le reste, je ne sais pas moi. Moi, je mettrais dans les excès de table et tout le reste 50 fois ou 25 fois en avion par an pour polluer la terre comme il faut. Comme ça, les gosses qui naissent, ils en claqueront. Mais moi, je dispose de mon plaisir sur la terre. Je la découvre. Elle est à moi, la terre. Alors qu'on n'a rien à soi. Que la terre est à Dieu. Mais je mettrai ça dans les excès. Autre chose semblable. On en est arrivé dans notre société à créer des autres excès. C'est assez monumental, et ça offense l'Esprit Saint. Ça offense l'Esprit Saint. Pourquoi? Pourquoi, je vous le dis franchement, dans une maison où ils sont à deux, avec une petite fille, les gens qui travaillent au Luxembourg, pourquoi il y a 3-4 voitures? Pourquoi, en France, il est venu quelqu'un au culte pendant 1 an, 2 ans, il m'a fallu comprendre qu'ils vivaient, ils avaient une belle maison luxueuse, ils vivaient dans l'étable, avec la bonnette, l'écharpe dans le foie, la varice, hein. Et pourquoi? Pourquoi? Dans la grange à côté, il y avait la vieille voiture pour venir au culte, il y avait une grande bâche, et derrière, il y avait 3 voitures toutes neuves. Et pourquoi, dans le sol, enterré sous les voitures, il y avait 1 250 000 € en lingots d'or. C'est pas Ananias et Séphira, et il venait au culte. Quand j'ai mis le doigt sur tout ça, vous savez ce qui me faisait la petite réclame à moi? Le petit pasteur de Gomery. Ben oui, je suis petit pasteur, moi. J'ai pas de lingots d'or, j'avais pas des voitures cachées, etc. Ben tant pis. Hein. Le petit Jésus de Nazareth n'intéresse personne encore aujourd'hui. Si on est habité par les œuvres de la chair, il faut renoncer aux œuvres de la chair pour aimer Jésus. C'est ça le chemin étroit. Alors regardez bien verset 22. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de vie chrétienne sans la régénération. Et on ne peut pas être dans le chemin de la sanctification si la régénération n'a pas eu lieu. C'est l'étape première. Le bénéfice de la foi, c'est la régénération. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, ce sont les choses qu'on retrouve dans le premier épître de Pierre. Hein? Les choses qui ne sont pas oisives et stériles. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, donc l'humain, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, l'Esprit Saint, le Christ, nous marchons aussi selon l'Esprit. Donc vous voyez tout ce qu'a dit tout à l'heure Vincent sur la voie, le chemin, etc. Ça colle. Ne cherchons pas de vaine gloire, évidemment, parce que c'est toujours le problème, hein. Quand on suit sa chair, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc le problème était dans l'Église. Le problème était dans l'Église. Si Paul doit le dire et le mettre par écrit, vous imaginez que ce sont des nouvelles églises du 1er siècle, et ça y est, zim, boum, ça commence. Donc ça y est, c'est le combat entre le spirituel et le charnel. Oui, les amis. Eh bien, il peut y avoir des conflits dans une église. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à gérer et à discuter. Et parfois même à aborder dans une église. Regardez Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 29. Vous allez voir que dans une église, le royaume de Dieu y est venu. Des hommes ont entendu la parole de Dieu, ils ont professé le nom de Jésus, ils sont convertis. Mais ont-ils accepté après la sanctification qui est demandée? Ou ont-ils mis en oubli la purification de leur péché? Mais regardez, vous avez deux catégories qui vont se dresser l'une contre l'autre. De même qu'alors, chapitre 4, verset 29, de même qu'alors celui qui était né selon la chair, donc qui est humain, et qui reste humain, il a été peut-être baptisé, mais il n'était pas né de nouveau. Les responsables de l'église ou le pasteur, peu importe, n'ont pas vu clair ou ils ont été séduits. Regardez bien, dans les actes des apôtres, même Ananias et Séphira, Simon le magicien avait été baptisé. Même Jean, Pierre, Jacques, ils se sont fait avoir. Ben, c'est une règle commune que dans les églises, il peut y avoir le noir et les blancs. Excusez-moi pour ceux qui sont noirs, parce que ce n'est pas ce niveau-là que je le dis. C'est, il peut y avoir l'amour du Saint-Esprit et la vie dans le Saint-Esprit. Il peut y avoir le refus d'être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, de même qu'alors ceux qui étaient nés selon la chair persécutaient celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, il peut être en sous-cape, de manière larvée ou de manière déclarée, avoir des conflits graves au sein de l'Église de Christ, parce que ça fait partie du combat depuis le péché d'Adam et Ève, Abel et Caïn. La bisbrouille spirituelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prière, c'est la méthode de Jésus pour mieux, pour voir clair. C'est quand on s'approche de Jésus, on apprend à avoir un grand réalisme spirituel. Jean 6, verset 63-65. Jean 6, verset 63. Vous ne savez pas me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oula. Oui. Jean 6, 63. Jean 6, 63. À 65. Il faut peser les paroles de Jésus. Et c'est pas facile, vous savez, des fois. Si vous courez tout le temps, c'est pas facile. Vous voyez, moi, par exemple. Pour le moment, je suis calé. Je suis calé, mon bras droit, sauf quand je prie, sauf quand je prêche, mais autrement j'ai mal tout le temps. C'est assez spécial comme phénomène. Mais ce qu'il y a,
je suis resté plusieurs heures là dans ce fauteuil là-bas à méditer des psaumes et tout. J'étais très bien avec le Seigneur. Et il faut bien que je me rende compte moi-même que ce combat est le mien aussi. Celui que je vous explique, il est le mien aussi. Et quand on a mal, on devient cagneux, on devient difficile, on confronte aux autres, etc. Ou on risque. Et alors qu'il faudrait rendre grâce, il faudrait être spirituel. Pas facile d'être spirituel, vous savez, des fois. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire merci au Seigneur pour que ça s'arrête. Il faut se tourner vers Christ. Mais quand... C'est pas facile, pourquoi ? Parce que je reste bloqué sur moi-même, mon problème. Je ne le dépose pas au Seigneur. C'est pas spontané de déposer notre problème au Seigneur. Ça revient toujours à la charge. Je voudrais bien régler ça moi-même. Non ? Regardez bien. Jean 6, 63. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. La chair ne sert de rien. L'humain ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si je lis ma Bible régulièrement, je reçois une influence de l'Esprit Saint et de vie. De sainteté et de vie. Et en lisant la parole de Dieu, en la méditant régulièrement, je peux comprendre que ma chair, reçue de mon papa et de ma maman, dans le péché d'Adam, ne me sert à rien. Ça ne pourra pas rentrer au ciel. Et ça ne me permet pas même de réussir le programme de Dieu, le programme de sainteté qu'il me propose et que j'aime. C'est vraiment le combat. Mais il y en est parmi vous qui ne croient point. Vous vous rendez compte que Jésus, déjà, dans un groupe de 12, il dit ça. Vous avez vu ce que Galate 4 a dit pour les communautés au milieu de la Turquie. C'est un phénomène classique, perpétuel, dans le peuple de Dieu, jusqu'au retour de Jésus, où il prend ceux qui ont fait la volonté du Père. Et ceux qui ont dit « Seigneur, Seigneur, je ne vous ai pas connu ». Imaginez, Matthieu 7, 21, imaginez le tri. Moi, ça me fout, ça me met. Parce que, est-ce que je suis celui que je crois que je suis ? Est-ce que je suis celui que je crois que je suis, mes amis ? Verset 64. « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Venir à moi, c'est-à-dire progresser, marcher vers Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, si cela ne lui a été donné par le Père. Qu'est-ce que Dieu peut donner, le Père ? L'œuvre du Saint-Esprit en moi. Donc, vous voyez que dans la prière, le temps de la prière, c'est un temps de recul, c'est un temps où on s'examine soi-même, c'est un temps où on clarifie nos positions avec Dieu, nos comportements, nos choix, nos démarches, nos vraies motivations. Nos motivations sont-elles si saintes et si pures qu'on pense ? C'est le lieu du réalisme, la prière. S'il n'y a pas ça, on fonce tout le temps, dans je ne sais pas quoi, dans le brouillard. Et on se perd. Si nous voulons lutter victorieusement contre la chair, contre ce qui vient d'Adam et Ève, il nous faut avancer avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Premier épître de Jean. Il faudra bien sûr arrêter. Je ne suis pas loin pourtant. Hein. Dans tout ce que j'ai prévu, mais voilà. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Bon, on va commencer au verset 19.
Page 932.
Je vais plutôt commencer au verset 18. Chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, donc la nouvelle naissance, la régénération, ne pêche point. Ben, ça, au premier degré, ça y est, je ne pêche jamais, donc j'ai plus de problème. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il n'a pas l'amour du péché. Parce que dans la même épître, c'est mis que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Hein. Donc, analysons ça. Celui qui n'aime pas le péché, qui le hait, oui, il est né de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, il va s'examiner, il va se garder, il va s'examiner, il va peser le pour et le contre. et il va déposer ça au Seigneur pour que le Seigneur le fasse progresser. C'est ça, déposer les fardeaux pour recevoir un joug plus léger, une consolation et un encouragement du Seigneur. Continue, je t'aime. Corrige ça, ça et ça. Fais attention à ce que tu as dit, etc. Fais attention à ce que tu as pensé. Attention, l'ennemi t'attaque sur ça, ci et ça. Est-ce que tu as raison sur ça et ça? Moi, Dieu peut dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu peut dire ça. Est-ce que je suis prêt à l'entendre? Alors, vous voyez, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Et le malin ne peut pas entraîner quelqu'un à faire des choses horribles qui offensent Dieu si chaque fois qu'il est dans la prière, le Seigneur lui dit, mais stop là, stop. Attention, allez. Et puis on lit, mais ça saute aux yeux qu'on doit écouter le Seigneur et pas écouter les tentations ou le tentateur, ou tel ami, soi-disant ami. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc on a un parfait réalisme que nous sommes en guerre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc dans la prière, c'est l'expérimentation de l'intelligence venue du véritable. Le véritable, c'est qui? Celui qui est digne de vérité est véritable, hein, Abel. Digne de vérité, c'est Jésus. Puisqu'il a dit à Pilate, mon royaume, c'est celui de la vérité, c'est pas de ce monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité. C'est ça mon royaume. Et c'est véritable. L'intelligence, on connaît le véritable. Et nous sommes dans le véritable, donc dans le Christ, en son Fils Jésus. Dans la vérité que Dieu a révélée et qu'il me donne, qu'il veut instaurer dans ma vie, à qui tous les jours il me demande mon consentement. Dans la prière, évidemment, c'est pas dans l'adrénaline, mais dans la course. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et cette petite phrase là, à la fin de l'épître. Combien d'idoles avons-nous? Alors, la prière clarifie le désir volontaire de mon âme pour suivre Jésus. Même que j'ai volonté de suivre Jésus, je peux être dans l'égarement et dans le péché. Il faut donc que je sois purifié par le Seigneur lui-même. Et il faut m'offrir, il faut que je m'offre en sacrifice perpétuel. Un sacrifice d'adoration, un sacrifice de bonne odeur à Jésus. Voilà. C'est ça. J'accepte d'être sacrifié spirituellement à Christ. Le cœur de la prière, c'est ça. Le cœur de la foi, c'est ça. La praxis de l'âme, c'est-à-dire le combat qui est en moi. Toute la mise en pratique, cette installation du vrai royaume en moi. La praxis de l'âme, c'est la lutte de mon âme pour développer ma propre nature spirituelle. C'est la lutte de mon âme pour développer ma propre nature spirituelle. Celle que Dieu en a vue pour moi. J'ai une photo sur ma carte d'identité, j'ai une photo au ciel. Quand j'arriverai, est-ce que je corresponds à celle-là? Ah, quand je suis jeune, on m'a fait la tête que j'ai. Quand j'arriverai au ciel, j'aurai la tête que Christ m'aura fait. Ou que j'aurais fait. Si c'est la tête que j'ai faite, c'est raté. La praxis de l'âme, c'est la lutte de l'âme pour développer sa propre nature spirituelle. Droiture et vérité en Jésus-Christ. Réconcilier toutes les activités de notre existence avec la volonté de Jésus. Avec la personne de Christ. Parce que Jésus a dit, Jean 4:34, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et le vrai disciple de Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ok, on va arrêter là. Mais ce qui a une telle prière consentie tous les jours, les amis, il faut adorer Dieu et il faut se présenter honnêtement devant le Seigneur. C'est lui qui va faire le travail. Peu importe où on en est, c'est lui qui fait le travail. C'est la machine à laver qui lave le linge, c'est pas le linge qui lave la machine à laver. Comprenez? C'est le lave-vaisselle qui lave la vaisselle. C'est pas la vaisselle qui lave le lave-vaisselle. Eh bien, c'est tout simple. C'est le Christ en moi, caché en moi, qui fait son œuvre et qui fait de moi l'être qui plaît à Dieu, l'être spirituel.
Voyons.
Amen. Voyons. Qui veut prier et chanter?